Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Talks on the Moon. C'est le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. À l'origine, c'est l'union de deux podcasts, le yoga dans nos vies et créer, digitaliser et entreprendre. Il s'est appelé pendant un an Podcast Come on the Moon, mais j'ai eu besoin de retrouver du sens et l'appeler différemment, et grâce à vous, nous avons trouvé ce nom, Talks on the Moon. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'idée de s'exprimer au nom de l'agence, Come on the Moon, de vous apporter du contenu toujours plus pertinent au regard de la communication, de l'entrepreneuriat, nos conseils, les cycles de la lune, de la vie. Je m'appelle Alexandre Renaud, hôte de ce podcast, fondatrice de l'agence Come on the Moon, pour trouver votre identité, unicité, originalité et vous conseiller à créer une communication qui vous ressemble, alignée à votre évolution. Je suis également professeure de yoga et podcasteuse, finalement slasheuse, et tous ces domaines de ma vie m'accompagnent au travers de ce podcast. Dans ce podcast, vous retrouverez plusieurs types d'épisodes, des épisodes avec des entrepreneurs, moonpreneurs, avec des profs de yoga, moon yoga, de l'équipe ou une thématique spécifique, Moon Talk, sur le cycle lunaire du mois, les intentions à poser en tant qu'entrepreneur et dans votre quotidien, Moon Cycle, et de temps en temps un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des Moon Break. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Anne. On a parlé du podcast Métamorphose, c'est la fondatrice de ce podcast, mais on a parlé aussi de livres, on a parlé de podcasts en tant que tel, comment lancer un podcast qui fonctionne, on a parlé de nature, de son magazine féminin bio qu'elle a lancé. Et cette interview a été faite dans le cadre du podcast magazine, donc j'ai des bons petits papiers pour pouvoir justement interviewer des personnes de grande renommée et je suis ravie d'avoir pu accueillir Anne dans le podcast. Donc cette interview sort plus tard parce qu'on attend la sortie du podcast magazine avec son interview écrite et audio avant de la sortir dans le podcast. J'espère que ça vous plaira et bonne écoute. Bonjour Anne, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette audio dédiée au magazine, au podcast magazine, cette interview où on va parler de ton parcours, du podcast Métamorphose et de plein d'autres choses. Tu vas pouvoir te présenter à nous et nous parler de ce parcours, mais moi d'après ce que j'ai trouvé sur l'internet, donc tu es fondatrice du podcast Métamorphose, des expériences qui éveillent la conscience. Tu es directrice de collection chez Erol et il me semble que c'est la collection Bien-être, auteur de de plus d'une dizaine de livres et un qui vient de sortir qui s'appelle La fée qui ouvrait les cœurs. Tu as été la fondatrice de Féminin Bio. Il me semble qu'aujourd'hui, tu as légué cette entreprise. Tu nous en parleras peut-être un peu plus en détail. J'ai vu aussi que tu étais instructrice de Wutao, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Enfin voilà, tu as un parcours très très riche. Je te souhaite la bienvenue et merci de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui.
Bonjour Alexane et merci de me recevoir à toi.
Alors du coup, cette première question, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours, comment tu en es arrivée à créer le podcast et aussi à devenir directrice de collection et à fonder Féminin Bio?
Oula, c'est une vaste question déjà pour commencer. Écoute, pour faire une version peut-être courte, c'est vrai que moi j'avais travaillé dans des grands groupes et j'étais plutôt dans l'internet pendant toute une période. J'avais fait une école de commerce, du droit des affaires, etc. Et je me posais tout le temps la question du sens en fait dans ma vie. J'étais, je pense, peut-être d'une certaine manière tombée un peu dans la potion quand j'étais petite. Et c'était très important pour moi de me mettre au service d'un métier qui avait du sens, qui était utile pour moi, mais aussi pour le monde, qui avait du sens, voilà. Et donc c'est vrai qu'en travaillant dans des boîtes, dans des grosses boîtes, chez Vivendi, etc., je trouvais ça hyper excitant, intellectuellement, sur plein de niveaux, mais c'est vrai que j'étais pas forcément stimulée au niveau du sens. Et donc j'avais monté une start-up avec un copain, c'était la grande époque des start-up internet. Et puis cette start-up, au moment de l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, on l'a revendue à la casse au moment où le marché s'est effondré. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup voyagé pendant 3 ans. Je me suis installée à Barcelone et depuis Barcelone, j'ai pas mal voyagé, que ce soit en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, sur la côte ouest américaine, au Canada. Et j'ai reconnecté vraiment avec un sens de la terre, en fait, à ce moment-là. Un sens très profond, comme si la terre, en fait, me rappelait à elle. Et me disait, peut-être que si tu te mettais au service du vivant, ça pourrait être utile pour toi et les autres. C'est vraiment comme un sort de message que j'ai pu entendre à ce moment-là. Enfin, un message inconscient, ce n'était pas un message avec une voix qui me dit ça. Hein. C'est un ressenti quand je te dis ça. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. J'étais enceinte de ma première fille, donc je me suis posé beaucoup de questions sur l'alimentation saine, sur la façon de mettre au monde un enfant, de l'allaiter ou pas, quelle alimentation j'allais lui donner, voilà, ce que j'avais envie d'apporter finalement à cet être qui venait au monde. Et je me suis intéressée à tout ce qui était bio en général, en particulier aussi les produits de bien-être bio, les cosmétiques bio. Et j'ai créé un premier livre à ce moment-là qui s'appelait « Le guide des cosmétiques bio » en 2006-2007. Donc après l'écriture de ce livre, je me suis dit c'est génial de partager sur le bien-être au naturel, mais plus globalement, c'est ce mode de vie-là que j'ai envie de partager. Et donc j'ai fondé cette start-up à ce moment-là, Féminin Bio, qui renoue avec mes anciens amours entre guillemets d'Internet, et puis voilà, ce goût pour mettre en avant le vivant, l'écologie, l'harmonie en fait, entre notre cœur et notre corps. C'était vraiment ce qui me tenait à cœur justement à cette époque-là, qui me tient toujours d'ailleurs à cœur aujourd'hui. Et donc j'ai fondé ce média en me disant, si on cherche de l'information sur tous ces sujets, en fait il n'y en a pas tant que ça. C'était en 2007 et je me suis dit, il manque un média de référence sur le sujet. Donc j'ai fondé Féminin Bio à ce moment-là, qui était d'abord un site web, puis un magazine papier gratuit, puis un magazine papier payant en kiosque. Et donc cette aventure a duré presque 16 ans, l'aventure de Féminin Bio. Et puis à une époque, je suis partie m'installer aux États-Unis et j'en avais un peu marre aussi d'être seule à la tête de Féminin Bio. J'avais une petite équipe, on a fluctué entre 10 et 15 personnes. Et c'est vrai que j'avais envie de m'associer à quelqu'un. Je partais vivre aux US, donc la gestion opérationnelle, j'avais plus forcément envie de la faire au quotidien. Et donc, j'ai cédé la majorité de Féminin Bio à ce moment-là, une petite agence média, avec qui j'ai cheminé encore quelques années, avec qui on a fait des choses assez incroyables, puisque c'est à ce moment-là qu'on a lancé le magazine papier en kiosque, qui est devenu vraiment un vrai média à part entière. En tout cas, de manière plus officielle qu'un web magazine. Et voilà. Et puis petit à petit, j'ai quitté comme ça l'aventure féminin bio. J'avais envie de faire autre chose. Je me suis installée en Suisse. Et un jour, j'ai eu une espèce de révélation comme ça à propos des podcasts. J'ai lu un article qui disait que le podcast faisait son grand retour en force. C'était en 2018. Alors le podcast, c'était pas une idée nouvelle, hein. Ça existait depuis le début des années 2000. Mais je me suis dit, moi, je partage des conversations intimes avec des gens incroyables, extraordinaires, inspirants depuis tellement d'années au sein de Féminin Bio, que j'ai interviewé, avec qui parfois j'ai noué aussi des relations d'amitié vraiment fortes. Et ces conversations intimes, quand on les retranscrit en format papier, elles perdent parfois un peu l'essence de ce qui s'est joué dans l'instant de la parole. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. J'avais toujours aimé le média radio, la voix, j'aimais bien être un peu planquée derrière mon micro. J'avais fait de la télévision un peu pour Direct 8 et Ushuaïa TV, et c'est vrai qu'être à l'image me plaisait moyennement, en fait. Je suis assez sensible, et ça me stressait pas mal d'être à la télévision, alors que d'être derrière un micro, j'avais toujours apprécié les expériences de radio que j'avais pu avoir. Et je me suis dit, voilà, en fait, toutes ces conversations intimes que j'ai avec toutes ces personnes, je vais les partager au plus grand nombre. Enfin, au plus grand nombre. Au début, je ne savais pas que c'était au plus grand nombre, mais en tout cas, je vais les partager avec le monde. Voilà, c'était plutôt ça l'idée de départ. Alors, j'avais dit que je ferais court, ce n'était pas très court.
C'était super intéressant. Moi, j'essaye de prendre des notes en même temps pour rien oublier après, parce que du coup, notre interview sera aussi retranscrite dans le magazine pour le prochain numéro, et j'en suis ravie. Mais du coup, ça me permet aussi de rebondir sur ce que tu disais, que la télé te stressait pas mal, et c'est ce que tu m'as dit juste avant, c'est est-ce qu'il y aura la vidéo dans cet audio? Et du coup, non, mais je comprends mieux cet aspect-là. Et je pense que le podcast apporte vraiment cette notion d'émotion, justement, et de lien, parce qu'on sollicite qu'un seul sens, et donc du coup on a besoin de cette concentration aussi. Enfin, je trouve que je suis d'accord avec toi, ça apporte vraiment plus. Et donc du coup, création du podcast Métamorphose, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de pourquoi ce nom et pourquoi cette envie, et qu'est-ce qu'au départ tu voulais véhiculer, et comment est-ce qu'il a cheminé finalement?
Alors j'étais partie vivre, comme je te disais, aux États-Unis en 2013-2014. Et puis quand j'étais aux US, j'avais, avant de partir, initié un projet éditorial chez Erol, toujours ma maison d'édition fétiche, et qui s'appelait Métamorphose, et qui était un jeu de cartes, de 4 cartes, de 21 cartes chaque paquet, pardon, et pour cheminer en fait au rythme des saisons, avec chaque saison, voilà, qui étaient des cartes de développement personnel, quelque chose d'assez spirituel, un peu initiatique. Et j'avais dit à l'époque que ce projet Métamorphose, c'était en quelque sorte une forme de coming out spirituel, parce qu'au sein de Féminin Bio, même si moi je vivais une forme de spiritualité, c'était pas quelque chose que je partageais forcément, avec toujours cette petite peur de dire, si on partage sa spiritualité, on peut avoir l'impression de faire peut-être du prosélytisme. Et puis finalement, je suis assez pudique, et la spiritualité, c'est quelque chose aussi de très intime et de très personnel. Que j'avais jusque-là, ça, on sentait peut-être que j'étais quelqu'un de sensible à cette sphère-là, mais sans forcément le dire tel quel. Et puis ce premier projet Métamorphose, ça a été une forme de métamorphose pour moi, de pouvoir dire au monde d'une certaine manière, à travers ce projet éditorial, ce coffret qui est sorti chez Erol, qui a été publié, ensuite il s'est transformé en livre derrière, qui était 365 pensées, en fait, avec une pensée de métamorphose chaque jour, qui a suivi le projet de carte. Et c'était vraiment pouvoir aussi exprimer ça en disant, il y a aussi ça à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, je me sens vraiment en lien avec ma spiritualité, et j'ai quand même envie de le partager, voilà, parce qu'on est, un, en fait, Andrew Cohen, ce philosophe américain, Ken Wilber, il parle du « one life ». On est en fait une seule personne. C'est pas je porte un masque quand je suis au travail, et puis quand je suis ailleurs, je ne parle pas de ma spiritualité. Et pour moi, c'était tellement important que c'était une manière, en tout cas, de le partager. Forcément, naturellement, quand est venue l'idée du podcast, quand je me suis dit je vais faire du podcast, c'est complètement ça le format que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que ces conversations intimes cet art de la maïeutique, hein, d'accueillir vraiment la parole et d'accoucher de la parole aussi de l'autre, eh ben, tout naturellement, métamorphose qui avait déjà germé avec ce projet est venue tout de suite se mettre comme nom de ce podcast. Et à partir de ce moment-là, c'était très curieux parce que ça m'est très peu arrivé quand même de manière aussi explosive comme ça dans ma vie, que cette idée me tombe dessus et que tout de suite je me mette en mouvement pour la matérialiser, pour la faire, pour faire en sorte que ce projet naisse. Je me suis tout de suite formée aux techniques de podcast. Ça a été très rapide. Je savais qui j'avais envie d'interviewer. J'avais exactement l'angle éditorial en tête. C'est comme si, d'un seul coup, presque comme si ça venait pas de moi, il y avait un sort d'éclairage de ce projet, comme s'il était en germe comme ça et qu'il naissait au monde. C'est comme les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils viennent de nous, de notre corps, ils sont faits de notre ADN et en même temps, on ne fait rien pour qu'ils soient comme ils soient. C'est-à-dire quand on les découvre, on ne les a pas fabriqués. C'est indépendant de notre volonté. C'est vraiment le processus du vivant qui est en germe. Et ben, c'était exactement la même chose avec Métamorphose. Ce projet est né à travers moi, mais comme ça, avec cette clarté, cette vision. Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé en disant peut-être qu'un jour, il y a quelque chose. Alors, ça m'avait fait ça un peu pour Féminin Bio et pour d'autres projets, évidemment, mes projets de livres, ma première start-up. Mais là, c'était un cran vraiment au-dessus dans... comme si le projet me guidait, comme si en fait il me donnait la main et que je courais presque après lui. C'était très particulier comme processus de naissance de Métamorphose. Et c'est fou parce que j'avais enregistré dès le départ à peu près 5 ou 6 interviews peut-être d'avance. Et dès le départ de Métamorphose, les chiffres ont été tout de suite au rendez-vous. On a vu qu'il y avait une audience, que les gens... immédiatement nous ont fait des retours en disant c'est génial, on adore, il faut continuer. Et j'ai senti la première semaine ou les 15 premiers jours, les deux premières semaines, qu'il se passait quelque chose. C'est ça qui est incroyable.
Et ça t'a confirmé aussi, j'imagine, le fait que ce soit aligné avec toi, ton projet, et qu'en plus ça parle aux autres et à tes auditeurs et aux personnes que tu supposais être intéressées par ces sujets-là. Je sais que dans une autre interview, tu évoques le fait que à l'époque, quand tu avais lancé Féminin Bio, c'était pas encore trop dans les mœurs justement de parler de cette notion de spiritualité, de naturel, etc., de retour aux sources. Et là, avec Métamorphose, tu avais vraiment envie de le partager comme ça. Et du coup, tu dis que tout de suite, il y a eu ce déclic auprès des gens. Ils ont eu envie d'écouter, ils étaient au rendez-vous et tu as fondé cette communauté autour du podcast. Comment ça s'est matérialisé finalement ?
Je crois qu'il y a une soif de l'être humain sur toutes ces questions de sens, d'une part, qui est très forte parce que... ces questions existentielles qui nous taraudent, qui suis-je, où vais-je, pourquoi me suis-je incarnée, est-ce que j'ai une mission de vie, dans quel but, voilà, quel est mon chemin finalement, qu'on se pose tous d'une manière ou d'une autre inconsciente, ça répondait aussi à cela. Alors, je n'ai pas été la première évidemment à le faire. Il y a des magazines sur le sujet, si on pense à Psychologie Magazine, voilà, Happiness, etc. Mais, puis plein de livres, des philosophes et tout, évidemment, depuis l'Antiquité et bien avant. Mais je pense que l'humain, où on en est aujourd'hui dans le monde, on est quand même à un virage au niveau de l'humanité, peut-être un nouveau cycle, en tout cas de l'humanité. Et je crois que ça répondait aussi à ce moment-là, à cette soif-là du monde. Ça, c'est une première chose. Et puis, ça répondait voilà, à une attente inconsciente, hein, forcément, puisque moi, je n'ai pas fait une étude de marché avant. Et puis, parallèlement à ça, moi, j'avais quand même une connaissance déjà de cet écosystème assez approfondie, puisque, comme je te disais avant, ces personnes-là que j'ai interviewées, les premiers, Christophe André, Laurent Gounel et d'autres, c'est des gens que je côtoyais déjà depuis les débuts de Féminin Bio, que j'avais interviewé déjà plusieurs fois, que je connaissais bien. Donc il y avait une connaissance aussi de la pensée de ces penseurs contemporains. Et donc, j'avais à la fois, moi, cette soif de tous ces sujets Et je répondais aussi, je réponds à la soif du public, de l'audience, en fait, sur ces sujets. Donc, il y a eu vraiment cette rencontre au bon moment, moi, avec cette expérience, et puis cette soif du public de ces sujets. Donc, voilà, ça fait forcément un feu, quoi, tu vois, d'embrasement là, de cette matière qui se rencontre d'un seul coup.
Oui, complètement. Bon, on le sent en tout cas quand il nous l'explique. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, il y avait d'autres expériences de métamorphose qui se sont développées au fur et à mesure. Au-delà du podcast, il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, dans les expériences, c'est vrai que moi, j'aimerais de plus en plus passer à des choses aussi plus expérientielles dans nos expériences de métamorphose, même si il n'y a pas besoin de moi ou de métamorphose le podcast pour le faire, parce qu'on est tous finalement en perpétuelle métamorphose dans nos vies. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'expérimenter un certain nombre de pratiques, de cheminements, voilà, que j'aurais peut-être aujourd'hui un peu plus envie aussi de partager, que ce soit à travers des événements plus physiques, du présentiel, des ateliers, pourquoi pas en ligne aussi. Il y a eu cet oracle de la métamorphose. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du coffret de cartes. Et puis ensuite, après le lancement du podcast, je me suis attelée à ce format. J'avais écrit un compte quand j'étais partie aux États-Unis. C'était mon premier compte. Et j'étais pas bien sûre d'avoir envie de le publier en compte un peu tel quel comme ça. Et puis finalement, je l'ai accompagné d'un projet de carte. Il s'est appelé l'oracle de la métamorphose. Et donc, c'était aussi pour moi un point d'appui de cheminement. Pourquoi ça s'appelle un oracle? L'idée, c'est pas du tout de faire de la divination. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Mais par contre, proposer un oracle comme des points d'appui de cheminement pour nous faire réfléchir finalement au quotidien, ben ça, je trouvais chouette. Et donc, c'était pour moi à nouveau une nouvelle expérience, en fait, de métamorphose à travers voilà, un objet aussi peut-être plus concret, on va dire, puisque cet oracle propose un cheminement particulier avec 52 cartes. Donc, ça peut être une par semaine tout au long de l'année où voilà, je partage à la fois dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, la quête de sens, la philosophie, la psychologie, voilà, toute cette matière qui m'anime au quotidien, et puis des grands mythes, grandes mythologies aussi, puisque ça m'intéresse de travailler toujours sur nos archétypes, et ce qui est vivant en fait dans notre humanité, comme ça à l'intérieur de nous, hein, que ça vienne de l'extérieur, des grands mythes humains, ou des grands vécus de l'humain, de nos grandes cultures, et puis de nos archétypes liés à nos systémies familiales, plus proches finalement de nous. Donc ça, pour moi, c'était vraiment aussi une expérience de métamorphose à travers cet oracle, tant pour moi en l'écrivant que pour le public. Je vois d'ailleurs que ensuite, je ne reviens pas forcément énormément, je ne l'utilise pas beaucoup pour moi-même, c'est bizarre hein, comme point d'appui. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été tellement dans ce processus de métamorphose en l'écrivant, en le cheminant, qu'une fois qu'il est au monde, après, c'est comme si ça ne m'appartient plus. Hein, comme disait Khalil Gibran, vos enfants ne sont plus vos enfants. Je crois que c'est la même chose vraiment avec « ils sont les enfants de la vie qui coulent », en fait. Je ne sais plus exactement sa phrase, mais c'est vraiment ça. Je l'ai mise dans mon dernier conte, d'ailleurs. Il faudrait que je la retienne bien. mais c'est vraiment la même chose, je trouve, avec les projets. C'est-à-dire qu'ils jaillissent de nous, et puis après, ils vivent quelque part un peu leur vie à eux tout seuls, comme des grands.
Ouais, c'est hyper. Ça donne énormément de sens en fait, et ce que tu dis, ça me fait penser du coup à cette notion de gestation, comme si bah quand tu l'avais écrit, il y avait ce processus de création, de donner vie, et après de le laisser faire sa vie et son cheminement, comme tu dis, comme un enfant qui après fait sa propre vie, quoi.
C'est ça.
Super. Du coup, je voulais revenir sur le podcast en lui-même, les épisodes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'au début, c'était toi qui faisais les interviews, et après, tu as laissé la parole à d'autres hôtes. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Et pourquoi ce processus-là?
Mais c'est vrai que pendant Donc là, on a démarré la saison 5 de Métamorphose, début janvier 2023. Et donc, ça faisait 4 ans, pendant 3 ans, j'ai été la seule voix de Métamorphose. Et puis, avec des phases aussi... évidemment, je suis hyper passionnée, comme tu l'entends, et il y a tellement de joie pour moi dans cette transmission via Métamorphose que je trouve extraordinaire à travers tous ces invités merveilleux. Mais en même temps, il peut y avoir aussi un essoufflement parce qu'être tout le temps à l'antenne, je dirais toute l'année, puisqu'on ne s'arrête jamais, contrairement aux grandes radios nationales où pendant 2 mois l'été, il y a une trêve, à la télévision c'est pareil. Nous, si on veut continuer d'exister, finalement, on ne peut jamais arrêter. Comme ça, en fait, c'était moi qui étais à l'antenne, voilà, c'était non-stop. Et je me suis dit, finalement, c'est bien que je transmette, mais c'est aussi super, ne serait-ce que pour moi, en termes peut-être d'essoufflement, mais aussi d'avoir d'autres voix au sein de Métamorphose. Et puis, je commençais à être de plus en plus claire sur notre ligne éditoriale, forcément, au bout de 3 ans. Et je me suis dit, maintenant, je me sens prête aussi à former d'autres personnes à la façon d'interviewer Métamorphose. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des MeToo de ma façon d'interviewer, parce que chacun va avoir sa voix, sa couleur, sa personnalité, son énergie, ses connaissances, son bagage. Et puis, évidemment, tout ce qu'il constitue, lui, aussi à l'intérieur, son ombre et sa lumière propre. Donc, l'idée, ce n'est pas de formater des gens, mais en tout cas, de pouvoir donner quand même une manière d'être avec la personne qui est interviewée, une façon aussi peut-être de poser les questions, une ligne éditoriale très précise en interne, et de pouvoir former des gens à ça. Et pour moi, ça a été une grande joie de pouvoir le faire, de pouvoir transmettre et de me rendre compte que c'était possible de le faire et que d'autres personnes pouvaient aussi s'approprier Métamorphose dans son ADN, en fait, dans son essence. Et à ce moment-là, germait aussi une idée dans nos études, on voyait qu'on était qu'on touchait beaucoup, en fait, plutôt ma génération, je dirais entre 40 à 60 ans ou 35 à 65 ans, grosso modo, hein, ce qui est déjà assez large, mais qu'on touchait un peu moins le cœur des jeunes. Et je me suis dit, moi j'ai des enfants qui sont ados et des jeunes, et je me suis dit, c'est sympa aussi, pourquoi pas, de donner la parole à la jeune génération. Mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour le faire parce que je ne suis pas de cette génération-là. Et donc, à ce moment-là, germait l'idée de Graines de Métamorphose, justement le podcast qui fait germer la conscience, à destination de la génération plutôt des 25-35, ou 20-35, on va dire, à travers de nouveaux hosts. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec succès, puisque ça a commencé par Agathe Lévesque, qui était une jeune journaliste qui travaillait à la rédaction de Féminin Bio. C'était sa première expérience professionnelle. Et avec qui on a lancé Graines de Métamorphose, à destination plutôt de ce public-là, par ce public-là. C'est-à-dire qu'on interviewe des gens de cette génération pour les gens de cette génération. Alors ensuite, évidemment, qu'il y a des gens de tous âges qui peuvent écouter, et il y en a plein d'ailleurs qui nous disent « mais moi c'est génial, j'écoute les jeunes et je suis ravie de le faire ». Mais en tout cas, ils sont plus aussi entre eux au sein de cette génération. Donc ça, je trouvais ça cool. Et puis Alexandre Dana, qui est fondateur de Live Mentor, que tu connais aussi, qui a rejoint... Graines de Métamorphose aussi comme animateur et host de Métamorphose, de manière plus ponctuelle, parce qu'il est quand même très occupé, Alex, avec Live Mentor. Ils sont près de 200 maintenant, je crois, 200 personnes dans sa grosse start-up. Mmh. Et puis, on a lancé de nouvelles expérimentations, une série sur la psychologie positive avec Gila Clara Kessous, qui est artiste de l'UNESCO pour la paix, qui est coach, experte, auteur de livres sur la psychologie positive, qui a une très belle voix, qui connaît aussi parfaitement tous ces sujets. Et puis là, plus récemment, une série un peu longue aussi sur le masculin conscient avec un nouvel host qui s'appelle Emmanuel Viles, qui est aussi un coach engagé. Sur toutes les questions sociétales, aussi d'écologie et du masculin. Et je trouvais que c'était important de lancer un podcast sur le masculin conscient. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se posent des questions sur les nouvelles masculinités, sur la façon d'être au monde aujourd'hui quand on est un homme, qui ne savent plus forcément bien comment se comporter, où se situe leur virilité, où est-ce qu'elle n'est pas, comment aussi pouvoir accueillir leur vulnérabilité, peut-être au sein du couple, dans la famille. Et ça me semblait important d'accueillir aussi cette voix-là, cette voix des hommes au sein d'un podcast qui aujourd'hui est principalement écouté par des femmes.
Je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a plein de questionnements. On parle beaucoup de féminisme, féminin sacré, sororité, etc. Mais le côté masculin, on en parle effectivement moins. Et c'est hyper important de normaliser tout ça, d'inclure tout le monde. Je voulais partager aussi avec toi la manière de vivre de Métamorphose aujourd'hui, de ce que j'ai compris. Métamorphose vit via les écoutes, la communauté, mais aussi le sponsoring, le fait d'avoir des marques qui font appel à vous pour sponsoriser le podcast, pour se rendre aussi visible, pour créer des séries, j'imagine aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'abonnement, parce que je crois que vous avez aussi cet aspect abonnement au podcast et aux expériences Métamorphose en dehors des plateformes d'écoute qu'on connaît tous, c'est-à-dire Spotify, Apple Podcasts, etc. Comment est-ce que vous faites vivre Métamorphose ?
Alors oui, ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure dans les expériences Métamorphose, et tu fais bien d'en parler là avec la tribu, puisqu'on a lancé une expérience qu'on appelle la tribu Métamorphose sur Patreon, donc c'est patreon.com/métamorphose, où les personnes qui veulent écouter Métamorphose sans publicité, parce qu'il y en a qui disent, comme sur d'autres plateformes, Spotify, en disant « moi je ne veux pas la pub par exemple », peuvent tout à fait écouter, c'est une contribution qui est libre en fait sur Patreon. Donc les gens peuvent soit écouter sans pub, soit il y a des personnes qui souhaitent aussi soutenir l'aventure. Parce qu'aujourd'hui on reste, c'est vrai qu'on a une très très grosse audience, mais on reste une toute petite entreprise, une petite start-up. On est moins d'une petite dizaine, donc on est passionné, on travaille beaucoup, etc. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de contributions de notre audience. Et donc grâce à cette tribu Patreon, les gens peuvent nous soutenir chaque mois avec un minimum au départ de, je crois que c'est 5 euros ou 2 euros, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 5. Voilà. Et au départ, on ouvrait les cercles. En fait, on organise des cercles gratuits en ligne avec des interviewés de Métamorphose où on peut approfondir certains sujets, où on a en général entre 50 et 200 personnes. On fait ça une à deux fois par mois. Et donc au départ, ces cercles-là, ils étaient réservés justement aux contributeurs de la tribu Métamorphose. Et puis aujourd'hui, on a vu, en fait, ça fonctionnait très bien. Les gens en redemandaient. Et on s'est dit que c'était chouette d'ouvrir ça aussi beaucoup plus largement à notre audience, aux contributeurs ou non de la communauté, de la tribu Métamorphose. Donc ça fait partie aussi pour nous de l'expérience, parce qu'on peut vraiment échanger avec les gens qui nous écoutent, se voir, même si c'est en ligne, interagir, se poser des questions, cheminer ensemble, et puis toujours dans cette idée que on n'est pas sachant, en fait. On est tous, en fait, apprenants, on est tous en chemin, on se pose des questions, il y a mille et une manières d'y arriver. Et on est vraiment comme des explorateurs de la conscience. Et quand je dis nous, c'est les personnes qui nous écoutent, tout à chacun, chaque être humain, les personnes que j'interviewe, et puis l'équipe Métamorphose, en fait. On n'est pas différents les uns des autres, si ce n'est que certains ont peut-être plus réfléchi à certains sujets ou expérimenté certaines choses. Mais sinon, c'est vraiment intéressant dans le collectif de partager ensemble. Donc ça, c'est effectivement un modèle de revenu aussi pour nous, avec cette tribu qui nous soutient. Ça reste encore petit, donc j'aimerais bien qu'on ait plus de contributeurs peut-être qui nous soutiennent de ce côté-là. Et puis l'autre modèle économique de financement de Métamorphose, comme tu disais tout à l'heure, c'est le sponsoring et la publicité, comme le modèle des radios finalement, tout simplement. Ou la publicité dans les magazines, qui était le cas avant avec Féminin Bio, avec quand même ce regard, en tout cas chez nous, pas aussi strict certainement qu'à l'époque de Féminin Bio, mais de la qualité en fait de l'annonceur qui annonce aussi chez nous. Voilà, on reste quand même assez vigilant sur les annonceurs. Ensuite, on a de la publicité, ce qu'on appelle de la programmatique. Donc on a exclu certains secteurs qu'on ne veut pas forcément comme annonceur chez nous, et puis d'autres où on est plus tolérant. Et puis ensuite on a aussi une régie en interne qui propose de la publicité, des annonceurs qui sont plus proches de notre galaxie et de notre univers, dont on est aussi plus proche personnellement, on va dire.
Je pense, c'est hyper important ça, ouais, de retrouver ce sens-là aussi dans la publicité, parce qu'on parle beaucoup de marketing de masse, de consommation de masse, etc. Et dans le podcast, c'est quand même une grosse... c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, la publicité. Et on a beaucoup de gens qui disent que voilà, ils en ont marre, comme tu disais tout à l'heure, d'entendre des publicités qui n'ont rien à voir avec le podcast, et vous encore plus avec les sujets que vous abordez. Ça serait pas du tout cohérent d'avoir des publicités qui n'ont rien à voir, qui ne portent pas sur le développement personnel ou sur des actions qui vous parlent réellement, quoi.
Oui, après, c'est vrai qu'on est assez transversal en termes de sujets, puisqu'on aborde aussi la santé au naturel, le bien-être, la parentalité aussi bienveillante. Donc, finalement, on regroupe quand même pas mal de sujets, parce que la métamorphose, elle se joue dans tous les pans de notre vie, finalement, du quotidien. Elle n'est pas que sur un plan intellectuel, mental ou spirituel. Elle est vraiment aussi très corporelle, la métamorphose, évidemment. Donc, pour moi, c'était important, d'une manière holistique, dans le bon sens du terme, de regrouper tous ces sujets-là. Et par rapport à ce modèle économique, souligner aussi que les deux premières années de métamorphose, elles ont été financées par un mécène, que je remercie là vivement aussi, qui est le groupe Léa Nature, qui m'avait déjà beaucoup soutenue au temps de Féminin Bio. Le groupe Léa Nature, qui est un groupe leader de la bio en France aujourd'hui, qui est installé à La Rochelle avec des marques en supermarché qui sont bien connues comme Jardin Bio, des marques engagées ou dans la cosmétique bio, Jonzac, Sobioéthique, etc. Vraiment de très belles marques. Et c'est vrai qu'il a cru dès le départ dans le podcast, qui a cru dans cette flamme et qui a dit « Ok, moi je suis prêt à accompagner en fait ce développement ». Et c'était à un moment où le podcast, c'était vraiment encore les prémices du podcast, 2018-2019, on était encore, ça a explosé depuis. Mais finalement, il fallait croire que ce média allait vraiment se développer. Et donc ça a démarré comme ça en termes de mécénat et de soutien financier dès le départ.
Ok. Ah oui, donc effectivement, les deux premières années ont aussi vu le jour grâce à ce mécène. C'est super de voir l'évolution justement de cette partie monétisation finalement du podcast. Merci pour ces éclaircissements. J'aimerais qu'on parle maintenant de ton dernier livre, du coup, celui qui a fait l'objet d'un épisode de podcast, alors sorti ce matin à l'heure où on enregistre, le 23 mars, sur Métamorphose, ton livre « La fée qui ouvrait les cœurs ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, le processus d'écriture, ce qu'on retrouve dedans et comment tu l'as construit ?
Alors, comme beaucoup de projets là, dont je te parlais tout à l'heure, ces fameuses histoires d'accouchement de projets, c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, mais moi, j'adore écrire des histoires. C'est marrant parce que aujourd'hui, on fête aussi les 40 ans de mon frère, à l'heure où on se parle, ce 23 mars, et dont je suis aussi la marraine.
Bon anniversaire à lui.
Ouais, bon anniversaire à lui. C'est mon filleul, alors que je suis sa sœur aînée. D'accord. Et pourquoi je parlais de ça ?
L'accouchement d'un projet.
Je parlais de l'accouchement d'un projet, mais j'ai... Ah oui, et donc je me suis replongée dans des photos parce que je voulais lui envoyer des photos de lui petit. Et j'ai retrouvé, en cherchant parmi les photos, des photos de moi petite où maman me lisait des contes, justement. J'ai trouvé ça drôle de tomber sur ces vieilles photos que je n'ai pas vues depuis des années, juste aujourd'hui, le jour de la sortie du livre. Et c'est vrai que, aussi loin dont je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les histoires, les contes. Comme j'expliquais dans le podcast que... pour lequel Alexandre Dana m'a interviewé, là, dont tu parlais pour Métamorphose. Oui. Que ce soit maman ou papa, mes parents m'ont toujours raconté des histoires quand j'étais petite, soit qui venaient de leur imagination, soit évidemment qui venaient de livres. Et puis moi-même, dès que j'ai su lire, je me suis jetée sur tout un tas de livres incroyables, que ce soit des contes, des histoires, des romans. Voilà, j'ai toujours été une passionnée de rêves, de mondes extraordinaires, pas forcément dans le registre de la non-fiction, dans un registre peut-être fantastique, mais dans un registre peut-être de plus d'imaginaire, de rêves comme ça. Forcément, c'est un genre, quand je me sens appelée à l'écriture et je me mets devant cette page blanche, je me rends compte que ce qui sort, ce sont plutôt comme ça des histoires, des récits. Alors j'ai une maman qui écrit beaucoup aussi, qui n'a jamais publié, même si je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'elle devrait, hein, qui nous lit par exemple un conte tous les ans depuis des années à Noël, qu'elle écrit et qu'elle partage comme ça à toute la famille. Donc forcément, on est dans un terreau aussi familial qui est propice à une forme d'éclosion. En même temps, moi, je n'ai pas été formée du tout à cette écriture-là. Donc, c'est vrai que ce conte de la fée qui ouvrait les cœurs, bah, il a jailli aussi comme ça un matin où j'ai vu cette petite fée comme ça dans ma tête. Le personnage s'est incarné et qui descendait sur Terre, en fait, pour diffuser l'amour et d'une certaine manière tenter de réparer les vivants, on pourrait dire, d'adoucir la blessure des hommes. Dans ma construction caractérielle, moi, j'ai un profil plutôt de sauveuse, même si je cherche à sortir parfois de ce triangle de Karpman, comme tout le monde, et de décoller de ça. Mais c'est vrai que j'aime aussi venir en aide à l'autre, à mon prochain. Et que cette fée qui ouvrait les cœurs, non pas dans une substitution au libre arbitre de chacun pour procéder à sa propre guérison, mais parfois... on peut aussi avoir besoin d'une aide extérieure, de s'abandonner en fait au plus grand que soi. Évidemment, pour moi, derrière tout ça, il y a le divin. Et donc, cette fée, elle va réparer les vivants. C'est un peu son job au quotidien. Et puis, il va se passer quelque chose. Elle a un ami qui vit sur la banquise au loin, qui va être en difficulté. Et donc, va commencer pour cette fée une grande épopée, une grande odyssée à travers... les mondes intra-terre, à l'intérieur de la Terre, qui seraient certainement dans la psyché ou par analogie au monde intérieur, de nos mondes intérieurs, et que ce soit nos mondes intérieurs d'ombre et de lumière, et de tout ça mélangé, de toutes ces voix VOX en nous qui parlent, et de pouvoir rencontrer différents personnages assez symboliques, emblématiques sur son chemin, des âmes, avec toutes leurs émotions. Elle va rencontrer comme ça des personnages sortis aussi de la mythologie égyptienne qui me fascine toujours autant. Et à travers ces symboles, cheminer des messages. Elle va partir à la découverte. Elle a rencontré un mystérieux elfe dans la Voie lactée et cet elfe lui échappe un peu. Elle sent qu'elle a une connexion très puissante avec cet elfe. Elle l'aime beaucoup, mais elle ne sait pas de quelle nature en fait est leur lien. Est-ce que c'est un lien... amoureux, de l'ordre d'un couple, de désir. Est-ce que c'est un lien de qui vient d'ailleurs, d'avant? Quelle est la nature de cette relation? Et donc, il va se passer tout un tas d'aventures pour cette petite fée, avec aussi, évidemment, nos blessures. Hein. Donc, elle va traverser des zones douloureuses. Elle va croiser des gens avec des histoires douloureuses. Il est abordé des thèmes comme la guerre ou d'autres qui sont forcément ce qu'on rencontre, en fait, dans nos vies au quotidien, même si nous, on ne vit pas la guerre aujourd'hui ici, en Europe. Mais elle est vraiment à nos portes. Hein. Donc, on pense à nos amis, par exemple, si près de nous et puis dans plein d'endroits dans le monde qui vivent ça. Donc, c'est un peu long, là, ce que je t'explique sur le conte, parce que sans trop dévoiler non plus l'intrigue, mais je pense que les contes, hein, sont des mythes qui parlent finalement de manière très puissante aussi à la psyché. Les contes, les mythes, on parlait des archétypes tout à l'heure. Et donc, c'est vrai qu'ils nous font cheminer, je le crois vraiment, d'une autre manière, dans l'inconscient. À travers vraiment des choses très simples, en fait. C'est pas... ce conte, il est vraiment simple. Il n'y a pas de choses incroyables qui sont révélées. Mais je crois que c'est ça aussi qui nous est peut-être demandé, en fait, de nous abandonner à une forme d'humilité, de simplicité, en fait, dans nos vies. Et peut-être que la fée rappelle d'une certaine manière.
C'est super beau ce que tu dis. Et du coup, on traduit par tes mots que ça doit être très très bien écrit. En tout cas, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs qui nous écouteront et à ceux qui liront l'article de l'écouter d'aller le lire et aussi de pouvoir l'écouter, ce qui me permet de faire une magnifique transition sur cet aspect audio, puisque il me semble que le livre est aussi enregistré en audio et que c'est ta voix et que c'est pas forcément le cas cas dans les autres livres audio où souvent c'est une autre voix qui est choisie. Pourquoi ce choix ? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce processus de voix qu'on comprend finalement au travers de notre échange, mais pour qu'on ait aussi ton histoire à toi ?
C'est vrai que l'idée d'un conte immersif a germé petit à petit parce que la tradition orale du conte en général, comme je le disais aussi à Alexandre Dana, souvent le conte était dit, ça peut être sur la place publique, au coin du feu, à une petite audience, à une personne, mais c'était une tradition orale. Et donc forcément, j'avais envie de renouer avec cette tradition orale. Et puis comme je te disais au début, de cette idée de vibration de la voix, de ce qui passe dans l'intime, dans la chaleur d'une voix, dans ce qui s'échange, dans l'émotion qu'on entend, la sensibilité, le stress, la peur, mais aussi la joie, l'enthousiasme. Peut-être qu'on peut le transcrire à travers des mots, et les mots ont aussi ce pouvoir-là, mais la voix, là aussi. Et donc je me disais, bah forcément, moi qui aime tant ce processus de voix à travers les interviews que je fais, ça aurait vraiment tout son sens de pouvoir aussi l'offrir à travers ce livre avec ma voix. Hein, avec la voix, ou la voix qui m'habite, on va dire, en tout cas, à travers cette fée. Et puis, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience, c'est-à-dire de me retrouver dans le studio de Métamorphose pour enregistrer ce conte que j'avais écrit. Il y avait un espèce de... Voilà, quelque chose de jouissif, quoi. C'était un processus, pour moi, qui était une expérience unique. J'avais fait du théâtre pas mal quand j'étais adolescente et j'avais l'impression de renouer avec ce jeu de la voix que je ne maîtrise pas bien parce que je n'ai jamais été coachée, même pour Métamorphose, mais sans avoir été coachée ou avoir eu un apprentissage particulier, mais en tout cas qui m'amuse énormément. Donc ça, c'était important. Et puis, ça faisait écho aussi au processus créatif dont je n'ai pas parlé, de ma complice, l'artiste Izumi Idoya, qui illustre mes projets d'oracle et puis là, qui a illustré ce conte. Il y a, je crois, une trentaine ou une quarantaine, je ne sais plus, de tableaux dans ce conte qui viennent illustrer chaque petit chapitre du conte et qui sont à chaque fois, je trouve, en tout cas, moi, son art me touche beaucoup personnellement, des œuvres d'art et qui illustrent vraiment la vibration des mots. Et c'est sûr que, voilà, ça en fait un projet éditorial, une œuvre comme ça, un peu atypique, avec ses tableaux, les mots, la voix, qui porte, je trouve, une autre vibration et puis peut-être aussi une forme de rafraîchissement par rapport à tous les livres. Moi, je reçois beaucoup, beaucoup de livres, évidemment, de psychologie, de philosophie, de développement personnel, où on est vraiment sur les mots. J'adore les mots, vraiment infiniment. Et je trouvais que ça donnait aussi une autre dimension artistique, une autre lumière, une autre énergie de nourrir ça avec la voix et les tableaux d'Izumi. Voilà.
C'est vrai que ces dessins sont magnifiques, c'est ce que tu dis, des œuvres d'art, et ça se complète très bien. En fait, là, d'après ce que tu me dis, j'ai ce mot complet, tu vois, qui me vient, parce que, enfin, voilà, ça fait comme un cycle, comme on disait au début, c'est, comme tu dis, les mots, la voix, les tableaux, et finalement, l'imaginaire peut s'exprimer, et elle, au travers de ce que tu transcris, de tes mots, de tes histoires. Elle a réussi à transcrire visuellement des choses. Et puis après, nous, en tant que lecteurs, on peut s'imaginer d'autres choses. Et peut-être aussi au travers de ta voix, si on écoute uniquement le livre audio. Enfin, voilà, c'est magnifique en tout cas.
Merci pour ça. Et puis à toute l'équipe, hein, c'est vraiment une œuvre collective, un livre.
Je voulais passer maintenant à tes recettes, tes enseignements justement pour le podcast. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui aimeraient lancer un podcast, peut-être même en vivre, et peut-être lancer un autre type d'entreprise ? Mais bon, on est quand même sur le sujet de la voix du podcast, donc on peut personnaliser là-dessus.
C'est toujours difficile de donner des conseils parce que c'est vrai que j'ai commencé il y a 5 ans. Le marché a beaucoup, beaucoup changé aujourd'hui. Et je ne sais pas si on se lançait aujourd'hui, Métamorphose, si on arriverait à en vivre de la même façon, etc. Donc c'est difficile en tant qu'aujourd'hui leader, entre guillemets, d'un marché, puisqu'on a presque 2,5 millions d'écoutes par mois, de dire, bah oui, c'est formidable, lancez-vous parce que ça va tout de suite cartonner et tout ça. Je sais que pour Aujourd'hui, il y a des podcasts vraiment de qualité qui se lancent et qui ont vraiment beaucoup de mal au niveau de leur audience à émerger et qui parfois, hélas, jettent l'éponge au bout de 6 mois parce qu'ils n'arrivent pas à le monétiser, parce que l'audience n'est pas là. Hein, donc, je pense qu'il faut vraiment peut-être partir déjà avec une certaine peut-être mise financière au départ. Moi, ce qui n'était pas mon cas quand j'ai démarré, bon, même si j'ai eu ce mécène ensuite après qui m'a accompagnée, mais au départ, j'étais partie un peu comme ça, sans filet. Peut-être avoir une petite assise financière pour tenir dans la durée, parce qu'un podcast, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Hein. On est là à l'antenne comme une radio, hein, tout le temps. Donc, il faut pouvoir tenir, sauf si on a envie de faire quelque chose un peu comme ça, flash, sur une thématique, pourquoi pas. Il faut aussi avoir, je pense... moi, j'ai couru des marathons et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que si je n'avais pas quand même cet esprit de course de longue durée, de longue distance, on peut aussi, comme je le disais, hein, parfois s'essouffler. C'est vraiment une course de fond. Mm-hmm. Donc, il faut être prêt à ça, en tout cas en termes de conseils. Ensuite, c'est la joie, quoi. C'est suivre en fait son élan vital par rapport à ce qu'on a envie de partager. Aujourd'hui, ce que je recommande, c'est qu'avec le format interview passe bien sur des formats longs. Si en fait quelqu'un a envie de se lancer dans le podcast et de parler, de faire un talk show, si c'est pas quelqu'un de connu, par exemple, il faut mieux rester sur des formats assez courts. C'est ce qui marche le mieux parce que sinon les gens zappent assez rapidement. Si un coach par exemple nous écoute et dit tiens, ben moi j'ai des choses à raconter sur le coaching, j'ai envie de me lancer dans le podcast, il vaut mieux et que prendre la parole tout seul, il vaut mieux être sur des formats plus ramassés par exemple. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Je ne sais pas combien exactement il y a de podcasts aujourd'hui en France, il y en a beaucoup et je trouve que toute cette créativité et cette parole libre qui fait à la fois une forme de cacophonie, mais aussi une forme de symphonie, puisqu'en fait, c'est une grande créativité. Il y a une sorte de biodiversité de la parole à travers ces podcasts. Ensuite, est-ce qu'il y aura de la place pour l'écoute de tous ces podcasts? Parfois, on le verra. Mais en tout cas, il faut essayer, quoi. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir.
Mm-hmm. Ouais, merci beaucoup pour tes conseils parce que du coup ils sont très, j'en avais jamais entendu des comme ça et ils sont très personnalisés et créatifs pour le coup. Et donc j'ai pris des notes comme d'habitude, mais je ne peux pas répondre non plus à ta question. Effectivement, est-ce qu'il y aura de la place pour tous? Ça, j'ai envie de dire seul l'avenir nous le dira. Est-ce que tu peux est-ce que tu as envie de nous partager peut-être d'autres prochains projets? Alors je sais que c'est un petit peu précipité d'en parler peut-être maintenant avec à peine la sortie de ton livre, mais est-ce que tu as d'autres projets qui sont à venir, des envies pour Métamorphose et pour peut-être d'autres projets entrepreneuriaux?
Alors comme tu le disais au début, je suis directrice d'ouvrages et de collections chez Erol, donc je publie tout le temps des auteurs aussi qui me tiennent à cœur sur des thématiques. Et là, je vais publier, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, en tant qu'éditrice, un très grand roman qui pour moi va faire date, qui va sortir, et je ne peux pas en dire plus hélas pour le moment, qui va sortir probablement début 2024, qui est vraiment un projet de cœur avec une personne que j'aime énormément, qui porte une voix pour le monde essentielle. Et donc j'accompagnerai ce roman à sa sortie comme il se doit. Et puis moi je suis rentrée dans un nouveau processus d'écriture avec un nouveau livre. J'en dirai plus quand il sera plus avancé. Pour l'instant je suis peut-être au premier tiers. Je ne sais pas encore exactement où je vais avec ce livre. Mais j'ai retrouvé cette joie de l'immersion de l'écriture. Donc on va voir où il va me mener. Et puis, dans les nouveaux projets Métamorphose, je peux en parler parce que je pense qu'au moment où sera publiée cette interview, le projet sera déjà sorti. On est en train de préparer ce qu'on appelle la roue Métamorphose. Et la roue Métamorphose, c'est en fait, on répond à un petit questionnaire d'une dizaine de minutes, un peu sur sa façon de vivre, de penser la vie au sens large, voilà. Dans des domaines différents, que ce soit le couple, la famille, la spiritualité, pourquoi pas notre mode de vie alimentaire, etc. Et ensuite, Métamorphose proposera gratuitement, donc c'est ça qui est génial aussi, des réponses en fait par rapport à ce questionnaire par mail et des sélections de podcasts thématiques. Voilà, donc j'invite vraiment les personnes. C'est une autre manière de cheminer. C'est vrai que aujourd'hui, les personnes aussi se perdent un peu dans notre offre. Il y a plus de 500 podcasts Métamorphose publiés. Et donc, sur notre chaîne YouTube, on peut très facilement retrouver par thème, c'est segmenté. Mais c'est vrai que si on écoute sur des plateformes, comme par exemple sur Apple Podcasts, Spotify ou d'autres plateformes, c'est plus compliqué en fait, de retrouver par thème, de faire des recherches. Ces plateformes, elles n'ont pas été conçues en fait, exactement pour ça. Et donc, ce sera aussi une manière de retrouver les grandes thématiques de Métamorphose de cette façon-là. Donc là, c'est vraiment une avant-première de dévoiler ce projet, parce que pour l'instant, personne n'est encore au courant de ce projet. Donc, il est quand même sous embargo jusqu'à la publication de cette interview, de ce podcast. tu as la primeur, Alexane.
Voilà, c'est ça. Donc, je me tais, je ne dis rien. Promis.
Voilà, tout le monde nous entend, mais ce n'est pas grave, on le dit quand même. Mais allez quand même vous abonner à la roue Métamorphose, parce que, et puis s'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous nous le dites aussi, parce qu'on peut, c'est avec vous qu'on co-construit tout ça, et on peut corriger des choses, s'améliorer, donc n'hésitez pas en tout cas.
Super, et ben on ira s'abonner du coup au moment de la sortie, c'est sûr. En tout cas, c'est des superbes projets et je suis ravie de les connaître en avant-première. Merci pour ta confiance. Est-ce que du coup, pour on va terminer là-dessus cette interview, est-ce que du coup tu aurais un dernier message que tu aimerais faire passer? J'aime bien dire parfois une citation ou quelque chose que tu as inspiré cet épisode, cette interview et tes paroles.
Alors, il y avait une chose que je voulais mentionner et je l'ai omis et j'en suis navrée pour ça, c'est que j'ai un nouveau livre qui sort en avril avec le docteur Charrier. Alors, c'est plus évidemment lui que moi, mais je l'ai accompagné aussi dans ce processus. On est co-auteur de ce livre puisqu'en fait, on a dans les projets Métamorphose et des expériences Métamorphose, j'ai enregistré 4 séries de 6 à 8 épisodes avec le docteur Charrier qui est médecin en endobiogénie spécialisé en phytothérapie clinique à La Rochelle. Et cette série a été plébiscitée en fait par nos auditrices et nos auditeurs et donc on en a fait un livre qui sort, qui vient de sortir le 7 avril parce que moi j'avais très envie d'avoir un résumé de tous les conseils qu'il nous a donnés pendant tous les épisodes de manière écrite, que ce soit comme une espèce de guide, de bible de la santé au naturel à la maison et donc on l'a fait, donc ce livre est très important aussi qui est en train de sortir, qui vient de sortir. Et pour le mot de la fin... Donc toujours chez Erol. Alors pour le mot de la fin, moi j'adore toujours cette citation. Il y a deux citations qui m'animent. Il y a celle de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mm-hmm. Donc ça revient au conseil que je donnais tout à l'heure, c'est vraiment suivez vos rêves. Et puis quand je m'entends à ton micro et avec tes questions, je m'aperçois que c'est quand même ma ligne directrice, c'est de suivre aussi ma légende personnelle, nous dirait Paolo Coelho. D'une certaine manière, donc j'invite peut-être chacun et chacune à faire de même. Et puis cette citation de Friedrich Nietzsche qui dit « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » Et aussi du chaos naissent les étoiles, de nos chaos intérieurs. Il ne faut pas attendre d'être parfait, d'être bien luné, d'être bien ceci, d'être bien cela. De toute façon, comme dit Franck Lobet, on ne sera jamais la bonne personne. Et donc, de nos chaos intérieurs naissent aussi plein de choses. J'allais dire de belles choses, mais des choses, des belles et des mauvaises, mais des étoiles qui dansent en tout cas. Donc, j'ai vraiment envie de repartir avec ça, avec toi, Alexane, et ce podcast. Merci.
Merci beaucoup. Merci. J'en ai la petite larme à l'œil. C'était vraiment magique, cet échange. Et merci pour ton temps, merci pour ta confiance, Anne. Et puis, à très vite alors.
Merci Alexandre.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify, à nous contacter en message privé, ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On a hâte de vous retrouver.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.